Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. D'un coup de lance, un des soldats lui ouvrit le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Ce détail est tellement anecdotique au regard de tout ce que Jésus vient de rencontrer, d'endurer sur le chemin du calvaire. Un coup de lance alors qu'il est déjà mort, qu'est-ce que c'est? Tous les coups qu'il a reçus lors des flagellations, les crachats, les, pour ne rien dire, des clous qui ont été plantés dans ses pieds, dans ses mains. Voilà le Seigneur donc qui se voit percer le flanc, et ce petit détail, pour anecdotique qu'il soit, il se trouve que l'évangéliste Saint Jean le met en exergue. Les formules qu'il emploie trahissent en effet une ferme volonté que chacun des fidèles à travers les âges se souvienne bien de cet événement apparemment anodin. J'emploie la formule de Saint Jean lui-même: celui qui a vu a témoigné, son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Saint Jean, dont l'évangile est cousu d'or, qui n'est que très rarement redondant, sombre ici dans la répétition extrêmement lourde. C'est donc qu'il a bien pour intention de nous attirer l'œil vers cette scène du cœur de Jésus transpercé. Il cite d'ailleurs deux prophéties de l'Ancien Testament pour nous montrer l'importance de ce petit événement. Aucun de ses os ne sera brisé, ça c'est pour le psaume 34e, et ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé, prophétie de Saint Zacharie. Si celui qu'on qualifie d'aigle, non pas celui de Meaux, mais celui de Terre Sainte, en vertu de son regard perçant sur les mystères de Dieu, s'il a tant insisté sur le spectacle du cœur transpercé de Jésus, c'est parce qu'il a compris sans doute plus que tout autre qu'il s'agissait en fait de la plus précieuse perle de la révélation. C'est là en réalité le point focal de toute la révélation que Dieu fit aux hommes depuis le commencement et jusqu'à la fin des temps. Dans ce cœur outragé du Fils de Dieu fait homme se trouve, pour paraphraser les mots de Saint Paul que j'ai employé dans l'Épître tout à l'heure, se trouve mise en lumière devant tous l'économie cachée depuis les siècles en Dieu. Contempler le sacré cœur de Jésus blessé sur la croix permet de comprendre, toujours selon l'apôtre, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ et en réalité de l'amour de Dieu. Avant cette scène du calvaire, avant ce petit événement du cœur transpercé de Jésus, les Juifs avaient bien quelque idée de la bonté de Dieu, bien sûr, de sa miséricorde même. Ils avaient compris que tous pécheurs qu'ils étaient, en permanence, Dieu venait à leur secours. Il suffit de songer à toutes les interventions de Dieu au long de la longue histoire du peuple élu. N'avait-il pas du reste remis tant et tant d'infidélités, ce Dieu d'Israël, ce Dieu des armées, d'Adam à David en passant par le veau d'or au pied du mont Sinaï, où Dieu vient pourtant de donner les 10 commandements à son cher Moïse, de David à Malachie, le dernier des prophètes, partout dans l'Ancien Testament, et c'est-à-dire partout dans l'histoire du peuple élu, éclate la bonté de Dieu, sa patience et son pardon. Mais jamais, jamais n'avait resplendi avec autant d'éclat la puissance réelle de cette bonté de Dieu que le jour où le soldat a transpercé le cœur de Jésus. Une incroyable condescendance divine se perçoit ici. D'impassible, de transcendant, de tout autre qu'il était, voilà que Dieu, pour le seul bien des hommes, il n'a besoin de rien. Il est parfaitement bienheureux depuis toujours dans sa Trinité Sainte. Dieu, pour le simple bien des hommes, se rend non seulement incarné, c'est-à-dire passible de faim, de soif, avec ce besoin de dormir, mais également tout simplement ce besoin d'apprendre à lire, à écrire, d'apprendre la technique de ses pères pour savoir être un charpentier digne de ce nom. Mais plus profondément, il accepte ce Dieu impassible venu dans la chair de se rendre vulnérable. Vulnérable en étant à la merci de n'importe qui. Car, voyez-vous, ce geste du soldat zélé au pied de la croix, qui transperce Jésus, ce n'est rien moins qu'une profanation. On n'oserait jamais faire un tel geste à l'égard d'un cadavre quelconque. Et voilà que ce soldat se dit qu'après tout, on peut peut-être oser cette humiliation, cette ultime humiliation à l'égard de quelqu'un qui n'est qu'un paria, qui n'a aucun intérêt, qui est un séditieux et qui est un menteur. Voyez cet outrage ultime que le Dieu impassible, venu dans la chair et devenu passible donc, accepte. La coupe n'est pas seulement pleine, la coupe déborde. Voilà ce que nous pouvons percevoir dans ce flanc percé de Jésus. avec cette fécondité postérieure, l'eau et le sang qui s'écoulent du cœur de Jésus, de cet acte navrant, gratuit, odieux d'un soldat, Dieu fait un acte fécond. De ce flanc de Jésus transpercé s'écoule rien moins que la vie surnaturelle, la grâce sur tout homme, à commencer, s'il le veut bien, par cet homme qui a osé ce geste odieux. Mes chers amis, j'en viens à vous parce qu'aujourd'hui ce n'est pas seulement la solennité du Sacré-Cœur, mais c'est également, et c'est tout aussi important finalement, la profession de foi de nos deux amis, Grégoire et Coralie. J'en viens à vous. Vous allez dans quelques instants faire votre profession de foi. Peut-être certains de vos amis vous ont-ils demandé de quoi il s'agissait, si vous avez osé leur parler de ce qui se passait aujourd'hui. Peut-être n'ont-ils pas eu la présence d'esprit de vous demander de quoi il s'agissait. En tout cas, il faut que vous sachiez vraiment ce qui se passe aujourd'hui. C'est un acte très important. C'est bien pour cela que vous avez revêtu l'aube de votre baptême. Alors, elle a pris quelques centimètres cette aube parce que vous avez quand même grandi depuis ce temps reculé où on vous a porté sur les fonts baptismaux. Vous avez également le cierge baptismal, celui dont on s'est servi, enfin il en tient lieu, le jour de votre baptême, c'est la lumière même de Jésus-Christ, et vous allez faire prononcer un certain nombre de prières, un certain nombre de rites qui sont très importants. La profession de foi, d'où le nom de cet événement d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez réciter tout simplement le credo, mais de façon plus solennelle que d'habitude, toutes les grandes vérités dans lesquelles vos parrains, marraines et parents, le jour de votre baptême, ont dit que vous croyez, alors que vous n'aviez pas encore l'usage de votre raison, de votre intelligence. Aujourd'hui, vous dites « Oui, je suis d'accord avec ce qu'ont fait mes parents, parrains et marraines. Oui, j'adhère à la Trinité Sainte. Oui, je crois en la vie éternelle, etc. » Vous allez également renoncer à Satan, parce qu'on ne peut pas adhérer à la Trinité Sainte sans préalablement avoir dit non à celui qui est l'ennemi juré de la Trinité Sainte, c'est-à-dire Satan. Vous allez également faire une promesse sur l'Évangile, et c'est là le plus important, une promesse de toujours suivre Jésus. Est-ce que cette profession de foi est pour vous seulement un événement familial sympathique, à l'issue duquel vous allez toucher les cadeaux réglementaires, ou vous allez pouvoir vous empiffer à table, plus ou moins, en oubliant bien vite cette journée, ou est-ce qu'au contraire, cette journée marque un passage pour vous? Est-ce que vous vous souviendrez toute votre vie de ce que vous avez promis devant l'autel, la main sur l'Évangile? La main sur l'Évangile, ça engage. Ça veut dire que si vous ne respectez pas cet engagement, que vous prenez en toute liberté, il est encore temps de vous enfuir si vous ne voulez pas prendre cet engagement parce qu'il est grave. Si vous ne respectez pas cet engagement, mes chers enfants, vous êtes des parjures. Quelqu'un qui ne respecte pas ce qu'il a juré devant Dieu. C'est quelque chose de grave. Alors, encore une fois, vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Mais si vous le faites, dans quel esprit doit-il être fait? Eh bien, tout simplement, dans l'esprit du Sacré-Cœur. Jésus vous a montré sur la croix l'intensité de son amour. Lorsqu'il était pieds et poings liés par les clous, il pensait à toi, Coralie, et il pensait à toi, Grégoire. Il pensait à des milliards d'êtres humains, mais chacun d'entre nous a une importance telle que s'il avait fallu que Jésus vienne sur la terre pour une seule personne qui aurait péché, il l'aurait fait. C'est ce qu'il dit à Sainte Catherine de Sienne. Si toi, Coralie, tu avais été la seule femme pécheresse de toute l'humanité, Jésus serait venu sur terre et serait mort pour toi. Idem pour toi, Grégoire. Vous voyez un peu le sérieux de l'amour de Jésus pour vous. Jésus dit à quelqu'un qui a eu des visions de lui et dont l'Église a reconnu que ce n'était pas des visions dues à son imagination débordante féminine, mais que c'était bien des visions authentiques, saint Eugène de Foligno, qui a vécu il y a quelques siècles, Jésus a dit à saint Eugène « Si je t'ai aimé, ce n'est pas pour rire ». Il aurait pu te dire ça à toi, Coralie, à toi, Grégoire. Jésus a fait tout cela, rien que pour vos beaux yeux à tous les deux. Alors, en retour de cela, évidemment, je crois qu'il faut pouvoir faire la même chose. Jésus, en tant qu'amour, lui soit rendu pour amour, bien sûr. Jésus est amoureux de vous, il n'attend qu'une seule chose, que vous l'aimiez de retour. Et cet amour, Jésus explique comment il faut en vivre. Dans un esprit de réparation. De réparation, c'est-à-dire comme si vous étiez au pied du calvaire, en train de consoler Jésus sur la croix. Au pied de la croix, il n'y avait personne que saint Jean, la Vierge Marie et sainte Madeleine et peut-être deux, trois femmes. Personne d'autre. Les apôtres même n'étaient pas là. À vous aujourd'hui, Il est permis de réparer ce qui a causé le plus de tristesse à Jésus. Jésus dit à une autre voyante de Paray-le-Monial, qui est une grande apôtre du Sacré-Cœur, sainte Marguerite Marie Alacoque, qui vivait au temps de Louis XIV, si vous voulez, pour faire court, eh bien, il a dit à cette femme que cette jeune femme, que ce qui avait davantage fait souffrir son cœur, c'était la trahison de ses amis, à Gethsémanie, dans le jardin des Oliviers, et sur le mont Calvaire, au pied de la croix. Et il lui demandait si elle voulait bien réparer, c'est-à-dire se rendre présente au jardin des Oliviers et au pied de la croix, à la place de ceux qui n'étaient pas là à l'époque. Voyez donc ce dont vous pouvez vivre tous les jours. Pour réparer, ce n'est pas la peine de vous infliger des grands coups de fouet, de mettre du verre pilé dans votre petit déjeuner, ou je ne sais quoi, d'inventer toutes sortes d'horreurs. Pour réparer, il suffit simplement d'offrir au cœur de Jésus toutes les choses de votre vie. Les choses tristes, les choses difficiles à surmonter, et les choses heureuses. Rien de tout cela ne sera perdu. Le chrétien, c'est celui qui peut transformer du plomb, son existence, les événements les plus simples, les plus anodins, en de l'or et l'offrir à Jésus. Voyez donc dans quel esprit vous devez faire votre profession de foi. Je termine là, rassurez-vous, sinon vous allez vous endormir et vous n'aurez pas le cœur à professer votre foi. Et je veux que vous puissiez professer votre foi et répondre à l'amour de Jésus par l'amour. Voyez donc tout ce que vous pouvez faire par des toutes petites choses, c'est très simple, et ça s'appelle la vie chrétienne. Voilà en fait à quoi vous vous engagez, à être une vraie disciple de Jésus. Croyez bien que je prie profondément pour vous, mes amis, parce que je dois dire qu'à l'époque où j'ai fait ma profession de foi, on ne m'avait pas raconté tout cela, et que je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé ce jour-là, hormis les cadeaux et le bon repas qui a suivi. Et j'en suis aujourd'hui bien navré, croyez-le. Alors j'ai essayé un peu de vous donner ce qu'on ne m'avait pas donné. Je confie à la Vierge Marie, qui est celle qui a le plus aimé le cœur de Jésus, hein, celle dont on dit qu'elle a le cœur immaculé, uni à celui de son Fils, je confie votre vie, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à votre mort, tout à l'heure, au moment du memento des vivants, quand je prierai pour les vivants, je prierai tout particulièrement pour vous deux. Alors, en retour, priez pour moi et priez pour notre communauté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.